Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en août 2009 et c'est l'épisode numéro 14. Bonjour à tous, je suis Patrick Béja, vous êtes sur le Rendez-vous Tech, le podcast où on parle de toute l'actualité technologique, internet, gadgets, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, on va parler de la love story Yahoo-Microsoft qui se concrétise enfin, de Apple, d'open source, de toutes sortes de petites choses super intéressantes. Je pense qu'on va avoir un bel épisode aujourd'hui, et d'autant plus que c'est l'épisode classique avec Jeff et Yann. Yann, comme d'habitude, qui nous rejoint sur Skype. Tu vas bien ?
Bah oui, ça va très bien, ça va très bien. Je suis vachement content d'être avec vous. J'ai mon appartement qui se vide au fur et à mesure que notre départ vers le Canada se rapproche. On est en train de tout nous racheter. Et donc, je suis tout seul au milieu du salon sur une chaise et mon micro.
Tu veux mais passer sinon, une annonce là pour faire vent canapé, vent frigo, à peine usagé.
C'est un petit peu ça, ouais, c'est un petit peu ça. Mais non, mais tout est en train de partir, donc ça se passe bien.
D'accord. Et de l'autre côté du téléphone, on a littéralement quelqu'un au téléphone. C'est Jeff qui, à quelques centaines de kilomètres à peine, réussit à avoir une connexion moins bonne que depuis la Silicon Valley grâce à notre technologie française.
Exactement. Je pensais avoir du 3G+ avec nos amis de Wittel, et bien non, ces enfoirés bloquent Skype, et donc je vous appelle depuis un portable qui n'a bientôt plus de batterie.
Donc on va essayer. On va essayer d'aller vite, mais bon, on n'est pas sûr que ça soit eux qui bloquent Skype. Hein. Je me demande si c'est pas. Enfin bon, on est.
Bah écoute, on a quand même essayé 3-4 fois de suite et on bloque au bout de 10 secondes. Donc à mon avis, ils pètent les streams Skype dès qu'ils les voient passer.
C'est possible. C'est un scandale. Bon, vous savez ce qui n'est pas un scandale. Ouais, non, mais ceci dit, on rigole, mais c'est vrai que c'est vrai que quand même, tu as une super connexion quand t'es à 10 000 km et là, bref. C'est ironique, mais on ne va pas se laisser arrêter par un détail aussi anodin. Et on va se lancer dans l'actualité tout de suite parce qu'il y a quand même d'énormes nouvelles. Et j'aimerais vraiment avoir l'avis de Jeff en particulier sur celle-ci, qui est le mariage, ou on ne sait pas si on peut parler de mariage, mais l'union entre le PAX, entre Yahoo et Microsoft à propos de Bing. Et je voulais vraiment avoir Jeff parce que c'est un truc qui est un petit peu difficile à comprendre et peut-être que la question business l'aspect business nous donnera un petit peu plus d'éclairage là-dessus. Alors je vais expliquer rapidement de quoi il s'agit. Vous savez certainement, puisque vous écoutez l'actualité technologique, que Microsoft a voulu racheter Yahoo il y a plusieurs mois de ça, que Yahoo a fait sa mijaurée. Ils ont dit non, nous on veut pas se laisser partir pour un prix aussi bas, on veut plus, finalement le deal s'est pas fait, Microsoft s'est fâché, ils sont repartis dans leur coin, le CEO de Yahoo, Jerry Yang, s'est fait déposer, ils ont ramené l'ex de HP qui a repris les choses en main. Beaucoup de gens disaient le deal va finir par se faire, mais pas exactement sous la forme d'une vente, et finalement, il y a eu un deal énorme qui a été fait entre Yahoo et Bing, qui est le moteur de recherche de Microsoft. Alors, ce qui va se passer, c'est que Bing va fournir les résultats de recherche à Yahoo pendant 10 ans et Yahoo va s'occuper de monétiser les résultats de cette recherche et donc de vendre de la pub concrètement. Et ils vont se partager les bénéfices de cette opération avec la part du lion pour Yahoo. Alors ça, c'est la base de l'histoire. Est-ce que tu peux nous en expliquer un petit peu plus, Jeff ?
En fait, là, faut savoir que le deal a été annoncé alors que j'étais déjà parti en vacances et que j'ai essayé de suivre ce qui s'est passé, mais j'ai pas eu le détail comme si j'étais resté à la maison. Le principe, c'est en gros le même deal que l'on avait entre Yahoo et Google il y a plusieurs années. Bon, faut se rappeler que Dans les années 98-99, il y a eu ce deal entre Yahoo et Google, où Google faisait la recherche et puis Yahoo faisait en partie la monétisation. Donc c'est pas quelque chose de complètement nouveau pour Yahoo, c'est quelque chose auquel l'industrie s'attendait. La réaction a été globalement assez négative par rapport à... En gros, c'est un super deal pour Microsoft et c'est pas un super deal pour Yahoo. Puisque contrairement à Google il y a des années, en gros, ce que va payer Microsoft, ce que va recevoir Microsoft, c'est l'atout majeur que Yahoo a, qui est sa possibilité de monétiser ses forces de vente au niveau pub. Mais Microsoft ne va pas payer un premium pour avoir accès à ces forces de vente. En gros, ils vont payer en fonction du trafic.
Oui, mais ils vont quand même. Problème. Yahoo récupère quand même sur les 10 ans, en moyenne, 88% du business, ce qui est énorme.
88% du business, du trafic qu'ils voient, c'est-à-dire que c'est par rapport à leur trafic à eux. Il ne faut pas savoir, faut se rappeler que Bing est en train d'être en compétition avec Yahoo, et que là où le deal fait mal à Yahoo, c'est si jamais c'est de la pub Yahoo qui est vendue sur le site Microsoft à partir de Bing, il voit aucune partie du revenu. Donc si tu vois en fait les différentes dissections du deal qui ont été faites, que ce soit par Henry Blodgett ou certains analystes dans le monde du search, ils vont te dire que si Bing réussit à se déployer et à gagner de la part de marché, en fait, c'est quelque chose qui va vraiment pénaliser Yahoo. Et c'est pour ça qu'en fait, Yahoo a été assez puni au niveau du marché.
Parce que leur action s'est effondrée quand le deal a été annoncé.
Bah oui, on considère que c'est en gros Yahoo qui vend une partie de ses assets sans en avoir l'avantage. En gros, ce que le marché aurait voulu voir, c'est un paiement immédiat de Microsoft de quelques centaines de millions, voire milliards de dollars, qui serait en fait un revenu garanti. Et en fait, il n'y a strictement aucune garantie au niveau du revenu.
Un autre aspect qui est intéressant aussi, c'est le fait que tout à coup, Bing devient en un seul deal le deuxième acteur mondial de la recherche sur Internet. Ça leur fait en tout, entre leur propre moteur de recherche et la recherche Yahoo, à peu près 28% de la recherche mondiale contre l'énorme part du lion.
Pour Google.
Voilà. 60, un petit peu plus de 60% pour Google. Et donc effectivement, un truc qui est très intéressant pour Microsoft, c'est que en rien, quoi, du jour au lendemain, bon, la recherche n'est pas encore implémentée, hein, ça devrait se faire d'ici quelques mois, mais du jour au lendemain, ils deviennent deuxième dans le marché des moteurs de recherche, qui est un marché énorme, parce qu'il faut se souvenir que Google fait l'ensemble de son argent qui se compte en officiellement, je crois que le terme c'est des paquets d'argent. et ils se font tout cet argent sur la pub, sur la recherche. Donc le marché de la recherche est extrêmement important et Bing et Microsoft est tout à coup deuxième, quoi.
Bah, c'est la technique Microsoft habituelle qui est que tu commences à zéro et puis tu achètes des parts de marché en faisant des acquisitions, en passant des partenariats et en gros le deal qui est sur la table aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très avantageux pour Microsoft parce que ça n'a rien coûté, quoi. Parce qu'effectivement, le fait de faire partir une grosse partie du revenu chez Yahoo, c'est du revenu que eux vont de toute façon générer avec leur force de vente. Donc le fait qu'ils conservent, si tu veux, 80% du revenu, c'est pas mal. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en parallèle de ce deal où Yahoo va vendre de l'espace, tu as Bing qui va être en compétition directe de manière à essayer de changer la part de marché relative entre les deux parties, et que plus Bing devient important, moins Yahoo va faire du fric.
Ouais, donc c'est effectivement le même si Bing va fournir les résultats à Yahoo, Bing en lui-même, le site, reste un compétiteur. Donc c'est effectivement un truc. Et une autre chose qui est un petit peu, enfin, ce qu'on a beaucoup entendu aussi, c'est que elle a quand même, en faisant ce deal, la CEO de Yahoo, Carole, j'oublie son
nom
de famille, Bart, a quand même sauvé les meubles parce qu'ils étaient en train de se saigner à blanc. Et là, elle a sauvé les meubles, elle fait rentrer de l'argent à court terme, mais un autre truc qu'on entend beaucoup aussi, et moi ça a été un petit peu ma réaction, là je vais demander peut-être à Yann pour lui faire parler un petit peu, c'est aujourd'hui, Yahoo c'est quoi ? Parce qu'on s'en souvient, il y a une quinzaine d'années, Yahoo c'était une bande de gars qui se sont retrouvés dans un bureau et qui se sont dit « on va organiser le web » à la main, c'est-à-dire qu'on va faire une sorte d'annuaire du web et on va faire par sujet les sites intéressants. Donc en gros, c'était une sorte de moteur de recherche à la main. Et à part ça, on sait qu'ils ont beaucoup de business différents, mais on a du mal à définir un petit peu ce que c'est qu'Yahoo, quoi. Moi, si on me dit Yahoo, qu'est-ce que c'est ? Je dis, c'est une sorte de moteur de recherche. Et si c'est Bing qui fournit le moteur de recherche, il reste quoi ? C'est une sorte de coquille vide, ils font du contenu, qu'est-ce qu'ils font chez Yahoo en fait ?
Écoute, moi, je ne pourrais pas répondre directement à ta question pour la simple et bonne raison que ça doit faire au moins 3 ou 4 ans que je ne suis pas allé sur le site de Yahoo, si ce n'est pour pouvoir jouer avec leur outil de gestion de flux RSS, là, le Yahoo Pipes dont j'avais parlé une fois. Ouais. Mais par contre, juste pour revenir sur ce qui a été dit, je pense que, Jeff l'a dit tout à l'heure, que c'est un deal qui avait déjà été fait entre Yahoo et Google il y a à peu près 6-7 ans, plutôt 9-10 ans.
Mais voyons, ça a amené Google,
moi,
justement.
Oui, voilà, et ça a propulsé Google là où il est aujourd'hui. Mais en même temps, la situation n'est pas du tout comparable, en mon sens, dans le sens où, à l'époque, c'est-à-dire en l'an 2000, Yahoo avait vraiment pignon sur rue en ce qui concerne les moteurs de recherche, et Google avait vraiment tout à gagner. Il gagnait une forte exposition. Aujourd'hui, Yahoo récolte un petit peu les miettes pas les miettes, puisque tu disais tout à l'heure 24 ou 28%, je sais plus, mais
non, 88 c'est pas... sur le total. C'est
voilà, mais en termes d'exposition, l'exposition que va gagner Microsoft avec son moteur Bing n'est en rien comparable à ce que Google gagnait avec l'exposition Yahoo.
Ouais.
Et donc c'est pour ça que moi personnellement, je trouve pas que ce soit un truc qui va changer la face du monde et qui peut vraiment inquiéter Google, quoi. Enfin, ok, d'accord, on a changé de moteur derrière, mais est-ce que c'est ça qui va faire les gens revenir sur Yahoo? Moi, je te disais, ça fait 3-4 ans que je suis pas allé sur Yahoo, et c'est pas parce que derrière ils ont changé le capot, que le moteur qui est sous le capot, que je vais me rediriger vers Yahoo. Non,
d'accord.
Honnêtement.
Oui, mais ça,
voilà.
pour moi, c'est pas ça la question. Enfin, si tu veux, Yahoo, pour moi, c'est une. Tu as tout à fait raison, Patrick. Depuis bien longtemps, Yahoo a perdu le sens d'identité principale, qui est, ok, c'est quoi Yahoo en fait. Et ils ont essayé d'être compétitifs sur 10 domaines différents, que ce soit le mail, que ce soit le portail.
Ceci dit, il faut dire que sur le mail, ils ont une part de marché monstrueuse. Hein. Yahoo Mail est un des fournisseurs de mail les plus importants au monde. Donc ça, c'est quand même un truc qu'ils ont réussi.
Je crois que c'est le plus gros. Mais
ouais.
Aujourd'hui, si tu veux, si tu demandes à quelqu'un c'est quoi Yahoo pour toi, effectivement, s'ils sont utilisateurs du mail, ils vont dire c'est mon mail. Moi, j'étais un utilisateur de ma Yahoo jusqu'au moment où je suis passé sur NetVibes. Et en fait, le jour où je suis passé sur NetVibes, je me suis rendu compte que le lendemain, si Yahoo crevait, je m'en rendrais même pas compte. C'est-à-dire que j'avais petit à petit éliminé de mon utilisation personnelle l'ensemble des services de Yahoo. Et ça, pour la première entité Internet du monde avec plus de 500 millions d'uniques mensuels, c'est quelque chose d'absolument affreux, parce que ça veut dire que tu as une grosse partie des services Internet qui ont disparu en termes d'usage de ton jardin, si tu veux. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont vraiment du mal à essayer de recréer une mission interne pour dire, Yahoo, c'est ça, ou ça, ou ça. Il faut qu'ils choisissent. Et aujourd'hui, je pense qu'avec ce démon, ils ont clairement eu marché un signal, c'est que nous, c'est pas Search, parce qu'on l'a filé à Microsoft.
Oui, c'est sûr. Bon, il y a aussi, j'écoutais le This Week in Tech de la semaine dernière c'était This Week in Google d'ailleurs, de Leo Laporte, et il disait que le site Yahoo News, par exemple, est aussi un site énorme, et que, en gros, on a un petit peu l'impression quand même que l'univers de la technologie, ce sont les gens qui sont très habitués à la technologie, qui dénigrent un petit peu Yahoo, et que en fait, dans le monde normal, entre guillemets, hein, le monde des utilisateurs classiques, il y a beaucoup moins de dénigrement de Yahoo, et au contraire, les gens sont très adeptes de Yahoo. Donc, bon, peut-être qu'on voit ça, nous, de notre côté, en tant que consommateurs
de technologies voilà. Web.
Exactement. Et en réalité, on se fourre le doigt dans l'œil parce qu'il y a quand même énormément de gens qui l'utilisent très régulièrement, quoi.
Ah, peut-être.
Bon, en tout cas, c'est effectivement un deal qui a laissé beaucoup de gens perplexes, et on verra ce que ça donne d'ici quelques mois ou un ou deux ans pour. Et je suis désolé, en fait, je suis en train de me perdre dans mes explications. Je vais vous expliquer. C'est ça qui est merveilleux sur Internet avec les podcasts, c'est que on peut expliquer aux gens ce qu'on fait. On n'est pas à la radio en train d'être super sérieux. En fait, je surveille en même temps, comme on est sur Skype avec Skype Out, je surveille en même temps les crédits qui restent par rapport à l'appel avec Jeff, et ça descend très très vite. Donc là, pendant que j'étais en train de parler, je suis allé sur Skype et j'ai remis de l'argent sur le truc que je suis en train de mettre. Tu sais,
comme les machines à sous, tu sais, tu continues tes crédits.
Voilà, ouais. En fait, sur les portables, ça descend assez vite. Bon, c'est pas grave.
Ce sera le rendez-vous tech le plus cher de l'histoire.
Exactement.
Parce que moi, j'ai claqué genre 70 euros pour acheter cette putain.
Ouais, mais oui. Ah là là. Bon, alors on va avancer pour essayer de conclure l'émission avant. Mais je crois, bon, si Jeff disparaît au bout d'un moment, ça sera pour.
C'est que t'as plus de sous.
Voilà. Ma banque va m'appeler au milieu de l'émission. Bon, d'ailleurs, j'en profite pour dire bonjour à la chatroom qui se moque bien de moi et de nous à cette occasion. Bon, continuons. Alors, nouvelle suivante, toujours à propos de Microsoft. Windows 7, il y a eu l'annonce qu'il y aurait un Family Pack, c'est-à-dire un ensemble de licences pour Windows à acheter à un prix réduit. C'est-à-dire qu'une licence pour 3 installations qu'on pourrait installer sur son ordinateur principal, son portable et l'ordi du gamin qui est dans sa chambre coûterait un petit peu plus que le prix d'une seule licence, mais ne coûterait pas le prix de 3 licences. Le truc, c'est qu'on n'a pas de prix encore pour ce Family Pack. Ça sera sans doute entre 150 et 200 euros. Pardon ?
Non, en fait, j'étais en train de dire justement que j'ai récemment lu une news sur le sujet, et tu étais en train de le dire, désolé, je t'avais coupé, mais qu'effectivement, que ça allait commercialiser entre 150 et 200 dollars pour les 3 licences. Ça reste un petit peu plus cher que ce que fait Apple, eux, avec une licence Family qu'ils ont déjà qu'ils ont déjà annoncé, où chez Apple, pour le pack Family, c'est 200 euros pour les 5 licences, contre 200 euros pour 3 licences du côté de chez Microsoft. Et donc voilà, quoi. Par contre, Microsoft, ils ont quand même annoncé que à partir du moment où vous allez acheter ce Family Pack, donc pour 3 licences, il n'y a pas pour le moment de possibilité d'extension. Donc si jamais vous avez un quatrième PC chez vous, ben vous n'allez pas avoir un tarif préférentiel. La quatrième licence, il va falloir la payer plein pot, quoi. Ouais. C'est ce qui est un petit peu dommage.
Ce qui est normal. Oui, mais c'est normal à la limite. Déjà, le fait qu'ils fassent un Family Pack, c'est une bonne nouvelle en soi, mais moi j'ai plutôt envie de dire bon sang, il était temps, quoi.
Ah oui, c'est vrai. C'était une bonne initiative de la part d'Apple, et c'est sympa que Microsoft ait emboîté le pas.
Enfin, ouais. L'histoire suivante, c'est Yann qui nous l'a mise dans les notes.
Oui, effectivement. Alors, en fait, c'est un truc on a entendu parler partout sur tous les sites ces derniers temps sur le net. C'est le fait que Microsoft va finalement proposer le choix à l'utilisateur en ce qui concerne son navigateur suite aux pressions de la de l'Union européenne. Où globalement, alors, il y a eu plusieurs épisodes. Hein. Au début, ils ont dit non, non, pas question. Et puis finalement, ben, on enlève carrément le navigateur de l'OS. Et finalement, ils ont capitulé et vont permettre aux utilisateurs de choisir leur navigateur. Et en plus, ça va être rétroactif, ce qui signifie que même sur Windows XP et Windows Vista, on va avoir via un patch qui va être publié le choix entre différents navigateurs. Et donc
bah, ça c'est pour c'est pour ces histoires de monopole hein, que Opera bah, principalement menait la charge.
Exactement, exactement. En fait c'est Opera, enfin l'éditeur Opera qui était à l'initiative de tout ce mouvement où il voulait absolument
D'ailleurs je t'interromps une seconde percer, pour expliquer aux gens qui ne connaissent certainement pas Opera ce qu'est Opera. En fait c'est un navigateur internet comme Internet Explorer, Firefox ou Chrome, dont on vous parle souvent, et ils ont une minuscule part de marché, ils se battent contre Microsoft depuis des années pour obtenir que, exactement ça, quoi, ce dont tu parlais, qu'à l'installation de Windows, on ait le choix entre différents navigateurs.
Navigateurs. Enfin, eux, ils aimeraient bien avoir un choix unique, c'est juste Opera, mais bon, c'est un petit peu poussé un peu loin, mais j'ai l'impression, en fait, qu'on a deux débats en fait qui tournent autour de ça, puisque d'un côté l'argument qui est avancé c'est que il faut que même les plus petits navigateurs, ceux qui ont les plus petites parts de marché, ben qu'on ait un marché plus ou moins équitable où tout le monde a une chance de percer. Ok, mais alors dans ce cas-là il faut effectivement que dans Windows on puisse proposer l'intégralité des navigateurs. Là ce qui a été proposé apparemment c'est on va proposer les navigateurs les plus utilisés. Donc Opera va rentrer dans l'eau, mais finalement d'autres navigateurs vont rester encore sous le carreau. Donc l'argument principal qui a motivé toutes ces démarches, ben reste un petit peu en retrait et on a l'impression que voilà, Opera a réussi à être dans l'eau et donc du coup après pour les autres, tant pis, nous on a réussi,
tant pis pour
on
votre
s'en fout
gueule,
pour voilà. T'as vu pour votre gueule et je trouve ça vraiment vraiment dommage quoi. Et d'ailleurs Opera a essayé de pousser le truc un petit peu plus loin en disant du bout des lèvres comme ça que ce serait aussi bien qu'on ait aussi ce choix sur OS X et Ubuntu. Mais bon là je pense qu'ils peuvent
sur
toujours
Mac
rêver.
Et sur Linux. Non mais ce qui est marrant c'est que tu leur donnes ça, ils prennent ça quoi chez Opera.
Exactement.
Parce que en théorie bon pourquoi pas avoir plusieurs navigateurs installés à la base devant quand tu installes Windows. Pourquoi pas ? Et ce choix est certainement meilleur que celui dont on avait entendu parler à l'époque, je veux dire, il y a 2 semaines ou 3 semaines, quand on a dit qu'il n'y aurait carrément pas de navigateur du tout sur Windows. C'était ridicule. Mais ceci dit, l'Opera est en train de crier au meurtre, alors que des logiciels comme Firefox, Safari ou Chrome réussissent, et surtout, je pense surtout à Firefox évidemment, hein, qui est complètement indépendant et qui a une part de marché très conséquente de 18 ou 20% aujourd'hui, je crois. Donc c'est possible de prendre une part de marché. Alors est-ce que c'est vraiment justifiable cet argument d'Opera ? Je sens Jeff qui veut faire une intervention.
Non, bah Opera, si tu veux, enfin, Opera, ça reste un navigateur unique qui a eu pas mal de succès sur les téléphones portables de troisième zone. Mais bon, je veux dire, personnellement, je connais personne. Enfin, c'est vrai qu'en Silicon Valley, tout le monde est sur Firefox. Mais bon, je veux dire, il y a Firefox, il y a AI, ça c'est le choix. Quoi. Après, si quelqu'un veut utiliser Safari, bon, ok. Si quelqu'un veut utiliser Opera, ok. Et je pense que c'est bien que si c'est ton choix, tu puisses y accéder facilement. Mais cette clownerie où il faut que l'utilisateur ait le choix, et donc il faudrait qu'il y ait de preload, etc. C'est un peu des conneries, quoi.
Enfin, ils ont quand même poussé le vice jusqu'à demander que lors de l'installation, lors du choix au moment de l'installation de Windows, on ne voit pas les icônes des différents navigateurs et uniquement le nom, parce que si on voit les icônes, les gens associent intuitivement le E de Internet Explorer à Internet et donc ils vont cliquer là-dessus.
Ils avaient qu'à choisir un logo plus intéressant, voilà. Mais pendant qu'on raconte ça, je suis en train de regarder rapidement sur Internet Netscape et je vois que ce truc est encore vivant, quoi. Je me demande s'il fera partie du lot. Mais juste pour une dernière chose que je voulais rajouter, puisqu'on en avait parlé une fois dans un épisode sur le fait de qu'est-ce qui va se passer si finalement l'utilisateur choisit Firefox ou Opera comme unique navigateur sur son PC. IE reste quand même greffé au système d'exploitation. C'est juste qu'il est masqué, qu'il est caché. Lui, certes, on n'aura pas la possibilité de lancer le navigateur, mais il reste intégralement, enfin, greffé au système pour des simples raisons de rétrocompatibilité avec des applications qui s'appuient sur le fait que IE est en en permanence présent sur le système, quoi. Donc, c'est juste une petite note qu'avait rajouté Microsoft à ce sujet.
Et il y a d'autres choses d'autres questions qui se posent aussi. Est-ce que lors de ce processus d'installation, on peut en installer plusieurs? Est-ce qu'on peut ensuite revenir et en installer un autre? Est-ce qu'on peut choisir lequel est le navigateur par défaut? Enfin, il y a 1000 questions qui se posent, mais
Et lequel sera affiché en premier?
Oui, par exemple, je crois que c'est par ordre alphabétique, mais tout de même, la question, on en arrive à des trucs de protocole étranges, quoi. On se croirait aux Nations Unies, c'est invraisemblable.
Mais, c'est un peu ça, en fait. Hein.
Ouais. Oui, c'est vrai, non, tout à fait. Ce sur quoi on peut tomber d'accord quand même, c'est que c'est une bonne chose qu'on ait finalement le choix entre les différents navigateurs. Pour être tout à fait clair, même si je fais un petit peu de cynisme par rapport à Opera, moi je pense que c'est plutôt quelque chose de pas mal le fait qu'on puisse avoir le choix entre les différents navigateurs à l'installation. Ça me paraît pas indispensable, mais bon, pourquoi pas, hein. C'est certainement une meilleure solution que le fait de ne pas avoir de navigateur du tout.
Du tout, ouais, tout à fait.
Une info qui est tombée il y a une dizaine de jours sur le marché des ordinateurs personnels, donc des PC, des ordinateurs tout court. Apple détient 91% du marché des ordinateurs de plus de 1 000 $. Alors, c'est un chiffre absolument hallucinant. Il faut savoir que la dernière fois, ils étaient à 80%. Et ce sont uniquement les machines à plus de 1 000 $. Donc, la chose à laquelle on va penser immédiatement, c'est les machines à plus de 1 000 $, il n'y en a pas énormément, parce que, à part les Apple, justement, ce genre de machine est relativement rare. Et moi, je vous invite... Enfin, il y a une analyse qui est très intéressante, qu'a donné en partie Mathieu sur MacJT il y a une dizaine de jours, sur l'épisode, pas le dernier, mais celui d'avant. Il passe la moitié de son analyse à dire du mal de Microsoft et à lancer des pics sur sur les PC. Ça, on a l'habitude. De toute façon, moi maintenant, quand j'écoute MacJT, je pars du principe que la moitié, ça va être un truc que je dois bloquer parce que c'est destiné au public de fans de Mac. Donc ça, je pars de ce principe.
Mais un jour, il va rentrer chez lui, Mathieu, il va se faire buter, il va pas comprendre pourquoi. c'est plus des pics, c'est des fourches qu'il envoie. C'est du n'importe quoi. Enfin bon, je te laisse continuer.
Mais ceci dit, hormis ces pics dont on a désormais l'habitude, il a dit des choses très intéressantes et il a fait remarquer notamment que le marché des ordinateurs personnels bon marché ne génère quasiment aucune marge. Il y a une tranche entre les ordinateurs bon marché et les ordinateurs premium qui ont une marge raisonnable. Et il y a surtout ensuite cette marge des ordinateurs, enfin cette tranche des ordinateurs au-dessus de 1 000 $, qui est la tranche dans laquelle l'argent est vraiment là. Les marges sont importantes et les constructeurs se font vraiment de l'argent. Il faut savoir que des constructeurs comme Dell, par exemple, ne se font rien du tout, voire même perdent de l'argent sur les petites machines que vous allez acheter à 200, à 300, 400 euros. C'est des produits d'appel qui ne génèrent aucune marge. Donc le véritable argent se fait sur les machines beaucoup plus chères. Et Apple, qui détient 91% de ce marché où est véritablement l'argent, quoi qu'on pense de la société, c'est un tour de force assez extraordinaire et on comprend beaucoup mieux l'approche d'Apple, de Steve Jobs et de designers comme Jonathan Ive et la culture corporate d'Apple quand on a ces données en main. Et c'est tout à fait vrai que c'est la manière la plus lucrative de voir le marché de l'ordinateur.
Ouais. Je pense qu'un chiffre clé intéressant sur Apple, globalement, sur sa ligne de produits, c'est que c'est une boîte qui fait 30 milliards de dollars, enfin plus de 30 milliards de dollars, et qui a en gros moins de, ou à peu près, 30 lignes de produits, ou 30 produits phares. Et si tu compares ça avec les autres grands du marché de l'électronique, que ce soit Sony ou les autres grands, ils ont des centaines de produits. Donc ça veut dire qu'ils sont capables de sortir en gros des lignes de produits où ils disent bon, on fait 1 milliard par ligne de produit. Bon, c'est pas vrai, puisqu'il y a des lignes de produits qui font beaucoup plus que ça, mais je pense qu'ils ont réussi systématiquement à trouver, que ce soit au niveau design, que ce soit au niveau produit, que ce soit au niveau prix, le meilleur endroit pour eux pour sortir des choses qui sont extrêmement, qui ont beaucoup beaucoup de succès et qui font énormément d'argent. Et c'est vrai que tu vois aujourd'hui la pénétration des MacBook Pro dans l'entreprise, tu commences franchement à les voir fleurir là où typiquement tu aurais vu des PC. Quoi. Je ne sais pas si c'est la même chose en Europe, mais aux États-Unis c'est extrêmement présent.
Je sais pas, moi j'ai pas du tout eu la même, enfin vous pouvez bien évidemment vous y attendre de ma part, mais j'ai pas du tout eu la même perception des choses en écoutant ce que disait Mathieu dans le MacJT, où globalement j'ai vraiment eu l'impression qu'il disait que globalement il y a trois catégories, il y a les netbooks qui servent à rien, il y a les PC à moins de 800 euros qui plantent tout le temps, et ensuite il y a les Mac. Donc voilà, mais là où je suis,
disons qu'il a. Vas-y.
Non, enfin ce dont je suis persuadé, c'est que tôt ou tard, Apple va rentrer dans la cour des netbooks. Moi, j'en suis persuadé. Après ça, c'est juste mon point de vue, et je suis sûr qu'on va être témoin une fois encore d'un de ces retournements de veste éclairs légendaires de la communauté Apple, un petit peu de la même façon où ils étaient toujours en train de défendre PowerPC et cracher sur du Intel, et le jour où ils ont basculé sur Intel, tout le monde a dit waouh, génial, Intel c'est les meilleurs processeurs au monde, et donc je suis absolument persuadé que Apple tôt ou tard va basculer sur ce type d'ordinateur. Et tu disais tout à l'heure que on fait pas de marge sur des portables qu'on vend à 300-400 €. C'est vrai, mais ça, ce n'est un problème que si nous, en tant que constructeurs, on ne fabrique que ce type de machine. Quand on s'appelle Dell et qu'on fait du low cost, mais également du high end, on perd sur le low cost, mais finalement, on génère suffisamment d'argent avec les machines plus onéreuses pour pouvoir investir dans la R&D et créer des trucs un petit peu mieux de génération en génération. Et pour finir, Jeff tout à l'heure qui disait que globalement, Apple ne subit pas la crise avec leur ligne de produits. Enfin, je veux dire, quand tu vends 4 Go de RAM à 200 €, alors que tu peux l'avoir à 80 €, la crise, t'as le temps de l'avoir venir, quoi. Enfin, quand on s'extasie comme ça en disant que Apple, ils font des produits géniaux et que c'est par leur qualité qu'ils sont devant tout le monde, je pense que c'est pas forcément vrai. Quand on voit les 91% de 91% du marché des ordinateurs à plus de 1 000 $ qui sont détenus par Apple, je sais pas si dans l'eau on compte l'énorme majorité des gens qui conçoivent leur ordinateur eux-mêmes. Il y a plein de gens qui vont pas acheter un ordinateur.
Majorité, je crois que genre qui va aller chez à Paris, il y a le quartier des Chinois où on va acheter les produits, les pièces détachées soi-même. Si tu penses que c'est l'immense majorité, je crois que tu te trompes, tu te fourres quand même un peu le doigt dans l'œil. La plupart des gens ne vont pas chez les Chinois acheter leurs machines.
Bon, peut-être que énorme majorité, c'est un peu fort. Ok,
Ah. T'es un petit peu coupé. Dans la chatroom, il y en a qui te soutiennent. et il y a Mathieu qui est dans la chatroom aussi. On lui envoie une petite bise au passage. Et moi, c'est bien, on a entendu aussi l'avis contraire, celui de Yann qui est toujours prêt à prendre l'argument en route. Moi, pour conclure cette partie, je vais montrer à la chatroom mon nouvel iPhone. Mon iPhone 3GS que j'ai acheté il y a une semaine, que j'ai enfin réussi à trouver. Je me plaignais sur Twitter qu'il était disponible nulle part parce qu'il est en rupture absolument partout. Et j'ai enfin réussi à le trouver, et je peux t'assurer que je n'en changerai pour rien au monde. Ni un Pré, ni un Android, ni un LG, ni un... Là, je suis Apple.
Ouais. En même temps, tu pourras pas profiter de Google Voice sur ton 3GS.
Exactement, tout n'est pas rose dans le monde de l'Apple Phone, de l'iPhone. C'est l'une des histoires.
Une belle transition.
Tout à fait. Parce que Apple a rejeté l'application Google Voice qui avait été développée pour l'App Store, donc pour l'iPhone. Comme vous le savez, Google Voice est ce service qui permet d'unifier tous vos numéros de téléphone en un seul et de les gérer de manière comme des emails et avec des redirections, etc. On vous en avait déjà parlé. Et il y avait une application spéciale sur l'iPhone qui avait été prévu pour gérer ça, et notamment pour pouvoir faire des appels à partir de votre numéro Google Voice, qui est ce numéro unique. Et Apple, alors on ne sait pas très bien si c'est Apple ou Apple et AT&T ou Apple tout seul, Apple l'a rejeté. Et ça a provoqué un tollé parce que, d'une part, il existe une application Skype sur l'App Store qui fonctionne très bien. La seule limite étant qu'on n'a pas le droit de passer des coups de fil par cette application quand on est sur le réseau 3G. Donc, on peut en passer, par contre, quand on est en Wi-Fi. Et là, cette application Google Voice a été rejetée parce que, selon Apple, elle duplique des fonctionnalités de l'iPhone lui-même. Alors, ça a provoqué un tollé. Tout le monde a hurlé à la mort, à tel point que la FCC, donc la Federal Communications Commission aux États-Unis. Pardon ?
Federal Communications Commission.
Merci. Et a ouvert une enquête pour savoir qui de AT&T ou de Apple avait pris la décision, pourquoi ils avaient pris cette décision, qu'est-ce qui les avait motivés à faire ça pour Google Voice et pas pour d'autres applications. Enfin, là, c'était un petit peu inattendu comme développement. Et c'est vraiment la grosse artillerie, quoi. La FCC, qui est censée réguler la concurrence et le marché aux États-Unis, commence à s'intéresser à ça. Ils disent oula, attendez, qu'est-ce qui se passe? Sincèrement, vous voulez vraiment faire ça? Pourquoi? Ils demandent des comptes, en fait, à Apple et AT&T. AT&T a déjà annoncé, parce que tout le monde a pointé du doigt AT&T en disant ils veulent pas que Google Voice soit sur l'iPhone, d'une part pour protéger leur réseau, parce que ça provoquerait un trafic important, et d'autre part pour protéger leur marché, parce que si Google s'insère sur les différents téléphones, au final, l'opérateur de téléphonie mobile et devient complètement interchangeable parce qu'on garde uniquement son numéro de téléphone Google Voice de toute façon. Donc qu'on soit sur l'un ou sur l'autre, ça ne change plus grand-chose. Donc tout le monde a pointé du doigt AT&T, lequel s'est empressé de répondre « Nous n'avons aucune influence sur le choix des applications qui passent ou qui ne passent pas le processus d'autorisation sur l'App Store ». Donc ça, c'est une réponse qu'on n'attendait pas et qui a surpris les gens, parce qu'on était convaincus que Apple et AT&T faisaient leur petite sauce, qu'ils se mettaient d'accord ou même que AT&T avait des exigences et que Apple le faisait contraint et forcé. Et là, ils disent visiblement non. Alors, c'est surprenant.
Il y a peut-être des applications qui pourraient être très pénalisantes pour le réseau AT&T. Et à ce moment-là, AT&T, des applications de streaming, vidéo, etc., comme on va en voir un jour ou l'autre, qui pourraient vraiment pénaliser le débit du réseau. Donc je pense que là, AT&T dira quelque chose. Mais sur ce type d'appli, où c'est plus de la fonctionnalité, ça ne m'étonne pas outre mesure que ce soit une décision d'Apple, parce que je pense que ce qu'il faut voir, le contexte de cette décision d'Apple, c'est la guéguerre entre Apple et Google qui se pointe à l'horizon depuis quelques mois ou quelques années avec le développement d'Android. On voit maintenant qu'ils vont devenir clairement compétiteurs sur le marché du mobile. Et le fait que, je ne sais pas si vous avez vu, mais Eric Schmidt a quitté le board d'Apple, ce qui ne m'étonne absolument pas, parce que c'était une situation complètement intenable, parce qu'en gros, il fallait qu'il s'excuse.
Eric Schmidt, qui est le président, le CEO de Google. Hein.
Le CEO de Google, oui. Donc Eric Schmidt avait rejoint il y a 3 ans le board d'Apple, ce qui était légitime parce que c'était un partenaire important, mais pas fondamental. Et Schmidt est quand même un mec qui est très intelligent et qui était une bonne addition donc pour le board d'Apple. Et on a vu en fait dans les 2 dernières années Google se pointer comme étant un compétiteur de plus en plus direct avec Apple. Et puis bon, cet incident a été la goutte, je pense, qui a fait déborder le vase. Et je voyais personnellement pas comment Schmidt pouvait rester, quoi. Et donc aujourd'hui, la news est tombée ce matin que Schmidt avait donné sa démission.
Ils sont passés vraiment d'un statut de partenaire à un statut de concurrent, quoi. Mais alors vous voyez comment la suite de cette affaire? Est-ce que Google va faire 3 modifications et ils vont finir par être acceptés sur l'App Store, ou est-ce que Apple peut continuer à dicter les règles? Enfin, en théorie, ils pourraient, c'est leur App Store, ils font ce qu'ils veulent, mais est-ce que c'est pas un petit peu anticoncurrentiel, ou est-ce qu'ils vont...
Je sais pas, moi la première fois que j'ai lu cette news, j'ai eu l'impression que c'était un petit peu, enfin je m'y attendais quoi. Je me disais c'est un petit peu comme descendre au McDo avec ta bouteille de Coca. Ça m'a l'air d'imprévisible. Enfin on pouvait pas ne pas avoir un doute quoi. Là où c'est vraiment très très frustrant et il y a énormément de développeurs qui ont reproché ça avec Apple. Et j'en avais déjà discuté avec vous d'ailleurs, je crois, à ce sujet, c'est que globalement, quand tu développes une application sur iPhone, tu passes beaucoup de temps là-dessus et tu la soumets et là, tu serres les fesses en fait. Tu ouais. sais pas, t'as pas une sorte de checklist que tu peux vérifier pour savoir si oui ou non ton application va être acceptée dans 99,9% des cas. Et donc ça, c'est le premier reproche qu'une grosse majorité des développeurs font à Apple.
Mais il y en a qui commencent à claquer la porte, carrément.
Bah oui, très précisément, d'ailleurs, ceux qui ont développé donc cette application Google Voice ont clairement dit dans un communiqué qu'ils regardent de très très près ce qui se fait du coup.
Ah, qu'ils regardent de très très près ce qui se fait du côté. J'ai répété ce que tu disais et là tu es revenu.
D'accord. Je sais pas ce qui se passe, mais qui regarde de très très près ce qui se fait du côté de WebOS et d'Android. Et d'autant plus que d'un point de vue communication, c'est extrêmement difficile avec Apple. Parce que quand l'application est sortie sur l'Apple Store, des gens ont quand même réussi à télécharger l'application. Et comme c'était une première version, bien évidemment, il y a des bugs, il y a des trucs qui fonctionnent pas forcément bien, qui sont fixés après par l'éditeur. Mais le problème, c'est que l'application a été enlevée entre temps. Donc, ils ne peuvent pas récupérer, donc, les patchs et ils sont coincés avec leur application plus ou moins buggée et demandent finalement à l'éditeur, un remboursement. Et l'éditeur lui se retourne vers Apple.
C'est sûr que c'est une situation. Ouais.
Voilà, et l'éditeur se retourne vers Apple en disant, nous, s'il n'est pas question qu'on rembourse quoi que ce soit parce que les gens demandent un remboursement parce que l'application est buggée. Nous, on est prêt à sortir le patch, mais vous avez enlevé notre application. Donc, c'est vous, Apple, à procéder au remboursement. Nous, on ne rembourse rien du tout, et donc Apple ne communique pas du tout, et ça ça ternit leur image, quoi.
C'est sûr que moi, je pense qu'on en a déjà parlé, je suis tout à fait pour le fait que Apple ait une main de fer sur l'App Store et sur la manière dont les choses fonctionnent sur le téléphone en lui-même. Du moment que ça ne pose pas d'inconvénients trop importants aux utilisateurs et aux développeurs, j'ai l'impression qu'ils vont un petit peu loin quand même et ça commence à leur nuire véritablement. Ceci dit, il faut être honnête, ils ont changé la manière dont ils annonçaient les choses qui se passaient pour les développeurs, les processus d'approbation, etc. se passent de manière un petit peu plus claire depuis une ou deux semaines. Il y a de nouveaux outils qui ont été mis en place. Moi, je me demande s'ils ne sont pas tout simplement dépassés par le succès parce que le nombre d'applications est exponentiel.
Ouais, aujourd'hui on a plus de 60 000 applications sur l'App Store. Je pense qu'il y a un nombre d'applications qui sont soumises, puisque ça prend à peu près 3-4 semaines aujourd'hui pour passer de la première soumission à être sur l'App Store. Donc il doit y avoir un backlog, une file d'attente d'applications qui doit être énorme. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de pouvoir de décision qui est laissé en fait aux individus qui travaillent dans le groupe de validation. Et il n'y a pas des règles extrêmement précises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des applications qui passent sur l'App Store parce qu'elles ont été revues par une personne et si ça avait été revu par leur voisin, ça ne serait pas passé.
Ouais, c'est cet aspect aléatoire qui est très frustrant. Ceci dit, je précise encore une fois pour illustrer le succès de l'iPhone. Comme je le disais, j'ai essayé de trouver mon iPhone, mon 3GS que je viens d'acheter pendant. Donc j'ai vraiment cherché dans tout Paris. Et il y a la pire pénurie d'un produit de consommation grand public que j'ai vu de ma vie. J'ai jamais vu ça, mais jamais. Même à l'époque, il y a 15 ou 20 ans, j'avais acheté ma PlayStation 1 importée du Japon dans les petites boutiques spécialisées qui se vendaient à 4000 francs à l'époque. Je peux vous assurer que tu appelais quelques magasins, tu finissais par la trouver et pourtant il y avait une pénurie. Là, c'est invraisemblable. Les gens reçoivent 50 coups de fil par jour et ils en reçoivent, genre une boutique Bouygues Télécom en reçoit un lot de 3 toutes les 2 semaines et ils reçoivent 30 ou 40 coups de fil par jour. C'est incroyable. Et ce succès, qui était, on l'avait déjà dit, inattendu pour ce 3GS qui est qu'une mise à jour mineure de l'appareil 3G, est vraiment inattendu. Donc, dans cette configuration, peut-être qu'effectivement, Apple, qui, on le rappelait tout à l'heure, est finalement une structure relativement modeste avec une petite quantité de produits. Et, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas Dell. Non, mais attends, Yann, entendons-nous. C'est pas Dell ou Microsoft ou Apple est une société minuscule comparée à Microsoft. Remettons les choses à leur place. Microsoft, Sony, Nokia, par exemple. Nokia vend des millions de téléphones chaque semaine. On s'extasie de voir qu'il s'est vendu 1 million de téléphones dans le week-end de la sortie du 3GS. Nokia en vend 40 en 3 minutes, quoi. Bon, j'exagère, mais... Donc, ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'il faut prendre le temps de mettre les choses en place pour gérer des telles quantités et que ce genre de choses se fait plus lentement qu'on l'imagine. Tu ne peux pas claquer des doigts et...
Et c'est vrai, mais je pense que la... Le fait que Google Voice ait été rejeté est une décision complètement politique et qui n'a pas...
Ah, c'est une sacrée coïncidence.
C'était un clampin de troisième degré qui avait rejeté l'application sans penser aux conséquences politiques et que c'est en fait une vraie décision politique qui a été prise, à mon avis, par Jobs lui-même.
Bien sûr. Oui, là, on se...
Bon, bah, on va en mettre une à Google. Bon, on va voir. Je sais pas s'ils s'attendaient à la réaction de la FCC, etc., parce que même Apple ne peut pas se jouer en fait des règles de base de la concurrence aux États-Unis. Cela dit, ça peut prendre des années à être réglé.
Non, mais c'est quand même un coup de semonce fort. Ouais. Bon, je suis parti dans une tangente sur la popularité de l'iPhone parce que j'étais frustré par mes expériences pour en trouver un sur Paris, mais c'est sûr que dans le cas de Google Voice, il y a pas de doute là-dessus, c'était vraiment une décision politique.
Mais faut voir aussi, enfin, je pense qu'il y a vraiment les deux côtés de la barrière ou de la frontière que tu dois voir. Je pense que le fait que aujourd'hui tu es un OS, donc avec un design hard tel que l'iPhone, qui permet aujourd'hui aux développeurs de développer des applications qui n'ont jamais pu développer sur aucune autre plateforme, et qui donne la possibilité à des nouvelles boîtes, à des nouveaux talents de s'exprimer et de créer en fait pour eux des nouveaux marchés. Donc la raison pour laquelle c'est possible, c'est parce que Apple contrôle tout depuis le device, l'OS, la distribution, la monétisation. Et que, de fait, tu vois, mon copain Sherwin à Social Gaming Network qui a lancé une application qui, en 15 jours, lui a gagné 1 million de dollars. C'est un truc de Jet Fighter sur l'iPhone qui s'appelle Fast. Et le mec, il a fait en 16 jours 1 million de dollars. Jamais, au grand jamais, il n'aurait fait 1 million de dollars sur une autre plateforme. Donc, la raison pour laquelle tu peux avoir ce type de pénétration de marché et de vitesse de développement de marché super rapide, c'est parce qu'Apple contrôle tout. Le pendant, le côté noir de la force, si j'ose dire,
c'est qu'Apple contrôle tout.
Comme ils contrôlent tout, ils peuvent faire ce genre de choses.
Ouais, nous sommes d'accord.
Comme tout, ce sera une question d'équilibre.
Ouais. Tout à fait, oui. Je pense que tu as bien résumé la situation. Et on peut passer à une autre information qui est la vulnérabilité SMS de l'iPhone qui a été révélée à la Black Hat Conference, qui est une conférence de pirates cette semaine. C'était une vulnérabilité qui faisait que en envoyant un SMS à quelqu'un, un SMS de pirate en fait, on pouvait, j'aime bien comment je dis ça, un SMS de pirate, c'est vraiment le truc qui ne veut rien dire. Un SMS qui contenait un logiciel.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Pirate qui permettait de prendre le contrôle de votre iPhone, mais complètement. C'est-à-dire que ça vous permettait de téléphoner, d'envoyer d'autres SMS pour infecter d'autres personnes, de prendre des photos, enfin vraiment de prendre le contrôle totalement. Et ça a fait beaucoup de bruit pendant la semaine dernière parce que justement c'était la peste noire, parce que si quelqu'un en avait un, ce logiciel, enfin ce virus en quelque sorte, permettait d'appeler tous les contacts et d'envoyer des SMS à tous ces contacts pour les infecter à leur tour. On imaginait le scénario catastrophe en quelques jours qui aurait envahi la Terre. Et ce qui n'était pas un scénario catastrophe fantaisiste, ça aurait pu arriver effectivement. Parce que la seule solution quand on avait été infecté, c'était d'éteindre son ordinateur. Enfin, d'éteindre, pardon, son iPhone. Donc, on imaginait la fin du monde. Après les quelques.
Après, je sais pas dans quel monde tu vis, Patrick, mais.
un monde. Mais je me demande si c'est... Oh, pardon. Non, bon, enfin bref, vous comprenez ce que je veux dire. Et finalement, en fait, il y a eu une. Le problème, c'est que les gens qui avaient découvert cette vulnérabilité avaient annoncé qu'elle était également, qu'elle affectait énormément de téléphones, de smartphones, comme le pré et Android, mais évidemment, l'iPhone était la première cible. Et ils avaient prévenu Apple. Et Apple n'avait pas répondu. Ils avaient prévenu il y a plusieurs semaines Apple. Ils avaient dit attention, on va finir par en parler. Finalement, ils en parlaient. Et tout le monde s'est dit, mais si Apple va attendre la mise à jour 3.1 qui arrive en septembre, il reste 4 semaines ou 5 semaines, largement le temps que tout leur téléphone soit infecté. Et en fait, Apple a réagi finalement quand il fallait, c'est-à-dire il y a une semaine, ils ont sorti un nouveau... Même pas, il y a deux jours, au moment où on enregistre cette émission, ils ont sorti un mini-patch pour l'iPhone. On passe de la version 3.0 à la version 3.0.1. Ce mini-patch qui corrige juste cette vulnérabilité pèse quand même 287 mégas. Mais bon, ça c'est eux qui font...
C'est un patch
sauce.
Apple.
C'est sûr. Et donc, ils ont corrigé la chose. Donc, en fait, toute mon histoire dont je vous parle depuis à peu près 5 minutes sans m'arrêter n'a plus aucun intérêt puisqu'Apple l'a corrigé. Bon.
En plus, c'est un problème qui n'affecte pas juste l'iPhone. Ça affecte d'autres téléphones, le pré et Android aussi, je crois.
Oui, c'est ce que je disais.
Et a priori, ça n'a pas encore été corrigé sur ces plateformes-là.
Tout à fait. Donc de là que c'est marrant cette situation en fait, parce que de là que Apple était les gens irresponsables qui ne corrigeaient pas le problème parce qu'ils ne répondaient à personne, tout à coup, en sortant cette mise à jour, ils sont devenus les seuls qui ont corrigé la faille et tous les autres sont encore vulnérables. Donc de là qu'on les pointait du doigt, tout à coup, c'est les seuls qui sont qui ont fait ce qu'il fallait. C'est quand même marrant.
Tu l'aimes ton 3GS, hein?
Écoute, faut être honnête. Là, ils ont bien géré.
Non, mais c'est vrai. Je suis bien content de l'avoir.
Oui, parce que ce qu'on ne dit pas dans toutes ces...
C'est que j'ai un iPhone et un Apple.
Et qu'il en est très content. Mathieu nous dit dans la chatroom que ça utilisait une faille, mais il fallait une autre application qui n'existe pas, qui envoie les données sur un serveur. Ce qu'il ne dit pas, c'est que l'application, effectivement, n'était pas encore écrite, mais que c'était justement d'ici quelques semaines qu'on craignait qu'elles arrivent, parce que c'était pas super compliqué à écrire. Bref, tout ça n'a plus lieu d'être, puisque la faille a été corrigée. Ceci dit, si vous avez un Android ou un pré aux États-Unis, faites attention, si vous recevez un SMS avec un seul caractère qui est un carré, éteignez votre téléphone, sinon, comme on disait tout à l'heure, c'est la fin du monde. Ceci dit, le monde va peut-être être changé avec, toujours, on a énormément de choses sur Apple, hein, je vous avais prévenu, avec la mise à jour 3.1 de l'iPhone, le monde va être transformé. N'est-ce pas?
Oui, tout à fait. Il y a quelque chose d'assez sympathique qui arrive sur l'iPhone. Comme quoi, je n'ai pas que des choses méchantes à dire sur le téléphone portable d'Apple. C'est la réalité augmentée qui va faire son apparition. Alors, c'est quoi la réalité augmentée? Globalement, il faut vous imaginer que vous portiez le casque de Master Chief. Vous savez, le gars du jeu vidéo sur Xbox, le Halo, là. En fait, c'est un truc qui, quand vous allez mettre votre téléphone portable juste devant vous, la caméra va automatiquement s'activer, ce qui est fait que vous allez voir ce que filme la caméra, donc globalement ce qu'il y a derrière l'iPhone. Et par-dessus donc l'image qui est en train d'être filmée, des applications vont afficher des informations par rapport au monument qui est en train de filmer l'iPhone, par rapport au magasin, et vous affichez donc des indications sur le métro, sur les magasins. Et donc on a quelques petits prototypes comme ça qui ont fait leur apparition sur YouTube. On peut déjà voir un peu à quoi ça ressemble. Donc au début on pensait que c'était du fake parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir fait un bond de 10 ans dans le futur, mais en fait il paraît que c'est vraiment très très réel et que ça arrive avec l'OS 3.1 de l'iPhone. Donc on va avoir de plus en plus d'applications qui vont vous afficher en temps réel sur ce que vous visionnez avec votre iPhone, des informations en plus. Et ça peut être vraiment très très sympa, par exemple si vous avez un rendez-vous avec quelqu'un qui broadcast sa location, pour reprendre l'expression de Jeff, si vous avez rendez-vous avec quelqu'un dans un centre commercial qui broadcast sa location et que vous que vous combinez ça avec ce truc de réalité augmentée, vous allez pouvoir retrouver cette personne-là avec un petit pointeur qui va s'afficher, qui va se balader, un petit peu comme dans tous les FPS où on vous donne votre objectif, vous suivez l'objectif qui se trouve être la personne avec qui vous avez rendez-vous.
Moi, je donne l'image de Terminator, en fait. C'est un truc, en fait, c'est comme les affichages tête haute qu'ont les pilotes d'avion, ce genre de choses comme ça. Le head-up display, qui s'appelle en français affichage tête haute, c'est comme Terminator. Vous tournez le regard et sur l'image que voit votre œil, il y a une sorte de texte qui s'affiche pour dire telle personne, telle a 32 ans, telle taille, machin. Ça vous donne des informations en plus surimprimées sur l'image. Donc l'iPhone devient une sorte de fenêtre sur le monde qui vous entoure. Et quand tu dis les gens pensaient que c'était des trucs, des fakes, des trucs qui n'étaient pas réels, ça donne une impression de science-fiction tellement irréelle qu'effectivement, on a du mal à s'imaginer que ça arrive dans 3 ou 4 semaines avec la mise à jour 3.1. Ça t'a impressionné autant, Jeff, ou ça t'a laissé froid ?
Non, l'iPhone 4.0, ce sera la version intracrânienne, où à ce moment-là, tu verras au travers de ton iPhone. Non, mais c'est pour ça, si tu te demandais pourquoi est-ce qu'il y avait un compas dans l'iPhone 3GS, c'était à cause de ça, parce que si tu veux faire tourner correctement une application de réalité augmentée, tu as besoin d'avoir donc la location, c'est ce que le GPS va te donner, mais tu as également besoin d'avoir l'angle avec lequel tu vas tenir ton iPhone, et ça c'est le compas qui te le donne. Donc avec le GPS et le compas, tu sais exactement ce que regarde la personne avec sa caméra, et donc tu peux envoyer ces informations supplémentaires. Et ce sont des services en fait qui existent déjà au Japon. Donc c'est en gros ce que tu vois, c'est le catch-up que fait Apple avec, enfin le catch-up. Donc
le
Apple
rattrapage.
Est en train de rattraper, merci. De rattraper ce que tu vas avoir dans les pays les plus évolués au niveau mobilité, donc la Corée et le Japon, et on va l'avoir en tant que consommateur américain sous quelques semaines, et ça va être assez fabuleux, quoi.
Nous sommes d'accord. Ça ouvre vraiment des possibilités très très intéressantes, cette histoire de réalité augmentée, et moi personnellement j'ai hâte. Et si vous avez hâte de voir des produits Apple, mais que vous n'avez pas d'argent pour vous les payer et pas d'amis riches, et vous pourrez aller très bientôt très bientôt dans les Apple Store à Paris, parce qu'il y a des Apple Store qui vont être ouverts, un près de la place de l'Opéra et un dans la galerie du Louvre. Moi je suis pour connaître les Apple Store. C'est vrai que ce sont des lieux assez les Apple Store américains, ce sont des lieux vraiment intéressants et attrayants, et en tout cas pour essayer les produits Apple, c'est l'endroit idéal. Normalement ils devraient ouvrir avant la fin de l'année, peut-être même courant septembre-octobre. Donc voilà.
Je vous préviens, ce sont des pièges. Et l'autre jour, j'ai posé la question sur Twitter, combien de temps est-ce que vous devez passer dans un Apple Store avant que l'impulsion soit trop forte et que vous achetiez quelque chose ? Et en gros, c'est 3 minutes. Donc 3 minutes dans l'Apple Store et paf, t'achètes quelque chose.
Le truc, c'est que c'est une sorte d'expérience en elle-même, le fait d'aller dans un Apple Store. C'est... Autant il y a quelques semaines, on s'est fait engueuler parce qu'on était trop anti-Apple. Là, pour le coup, je sens qu'on va recevoir des emails en disant « Ouais, vendu, vous êtes trop pro-Apple ». Mais personnellement, je suis allé dans des Apple Store et tu arrives, c'est propre, c'est clair, c'est espacé. Tu as plein de trucs, de machines pour essayer, genre iPhone, iPod Touch, etc. Et c'est espacé, tu es à l'aise. Et ne serait-ce que le fait de ne pas avoir de caisse pour aller payer, tu prends pas ton produit et tu vas à la caisse. Dans certains grands Apple Store, oui, mais dans la plupart, ça se passe autrement. C'est-à-dire que tu vois un vendeur, tu parles avec lui, tu lui dis « Bon, je voudrais voir ceci, cela. Bon, finalement, je vais acheter ceci ou cela. » Et il te dit « Ok », il t'amène ton produit et il revient avec sa petite machine à carte bleue et vous vous posez là où il y a de la place, parce qu'il y a de la place partout de toute façon, et vous faites votre opération financière et on repart. Le fait de ne pas aller à la caisse, ne serait-ce que des petits détails comme ça, que sans doute Steve
Jobs a... Un petit détail à 2000 euros quand même.
Non, je veux dire le fait qu'il n'y ait pas de caisse dans un magasin, c'est un truc étrange, tu vois. Et c'est certainement Steve Jobs qui a piqué une crise un jour, qui a dit « De toute façon, je ne veux pas de caisse dans les magasins », il s'est énervé, tout le monde l'a regardé bizarrement, il a dit « Ok, monsieur Jobs », et ça crée une ambiance véritablement différente. Et tous les parisiens...
J'ai jamais été, moi, dans un Apple Store, j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble.
Ah, la différence, en fait, dans les magasins parisiens, c'est que ça sera des vendeurs parisiens. Donc tu vas rentrer, ils vont faire « Je peux faire quoi pour vous
?»
Jacqueline, il y a un client, là.
Moi, je suis occupé. C'est un peu déjeuner.
Ouais, voilà.
Ah non, je te parle pas, moi je parle dans 10 minutes, faut pas déconner.
Bon, on va passer à nos histoires de logiciels libres et d'open source avec une bonne nouvelle pour les défenseurs de l'open source. L'OSA, Open Source for America, est un nouveau lobby qui vient d'être créé à Washington, qui va défendre les droits de l'open source. Parce qu'il se passe des choses, par exemple, quand les administrations ou les sociétés ou les grandes institutions réfléchissent à l'idée de passer à l'open source, parce qu'ils se disent l'open source c'est gratuit, donc autant ne plus acheter des produits Microsoft ou Apple même. Ils vont se dire l'open source est gratuit, c'est mieux, on va passer là-dessus. Il y a des lobbies ou des sociétés comme Microsoft qui vont dire « Oui, ça peut vous paraître gratuit maintenant, mais il y a des coûts associés à la mise à jour, au maintien de l'application, etc. etc. » Et personne n'est là pour défendre l'open source. Parce qu'il n'y a pas une grosse organisation, un gros lobby qui peut encapsuler les intérêts de l'open source. Et ben aujourd'hui, grâce à l'OSA, il y aura une voie pour défendre l'open source à Washington, et je pense que c'est quelque chose de vraiment nécessaire, et c'est une bonne chose que ça se fasse enfin. Parce que, bon, pour tout un tas de raisons, l'open source a des avantages énormes, et ça pousse les grosses sociétés à rester sur leur garde, parce qu'il y a une concurrence réelle de l'open source de plus en plus aujourd'hui. Est-ce que j'ai raté quelque chose?
Non, enfin, moi c'est juste que en lisant ça, je me suis dit que j'étais pour ni l'un ni l'autre, en fait, ni pour dans le cas des gouvernements, hein, dans leur système informatique, si j'avais une baguette magique, je mettrais ni du propriétaire Microsoft ou Apple ou autre, ni de l'open source, parce que en fait, le problème de ces trucs-là, c'est que le code source est disponible et que si une faille est un jour détectée, on pourra très facilement intégrer leur système et faire n'importe quoi. Et moi, je suis plus friand des trucs que tu vois dans 24 heures, tu vois. Enfin, c'est du n'importe quoi, parce que c'est de la fiction. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'un système entièrement écrit et développé pour le gouvernement et qui n'a absolument aucun dénominateur commun avec les systèmes qu'on a partout dans le monde, qui sont disponibles, ça le rendrait complètement imperméable aux attaques externes, puisque toutes les librairies sont développées from scratch, oui, par les développeurs. Ça les rendrait vraiment très sécurisés. Si tu choisis un système Microsoft, ben le jour où tu as une faille sur Microsoft qui a été trouvée, tu peux rentrer sur leur système.
Décidément, il a toujours le moment où il dit le truc intéressant où ça se coupe.
bon, c'est pas bien grave.
Pardon, fini.
Non, non, mais c'était globalement l'idée, quoi. C'est-à-dire que si le jour où il y a une faille qui est découverte sur Microsoft comme sur une Red Hat, bah, tous les systèmes qui sont équipés de ces systèmes sont vulnérables. Si jamais on fait un système from scratch, bah, à ce moment-là, on est immunisé, ouais, et on n'a pas de problème, quoi.
Disons,
mais bon,
qu'un
ça,
système,
c'est avec ma baguette magique, c'est tout.
Un système totalement indépendant, c'est bien pour la NSA ou pour la CIA ou ce genre de truc. Mais quand il s'agit de remplacer dans la mairie de la petite ville d'Arizona ou la petite ville même du fin fond des Ardèches, les logiciels Office par des logiciels Open Office, donc de remplacer Microsoft par un logiciel gratuit, bon, là, on ne va pas forcément à des extrêmes comme ceux dont tu parles, tu vois. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas de voie pour ce type de transition bien placée aujourd'hui.
C'est vrai, c'est vrai.
Le fait d'imposer l'un ou l'autre n'est jamais une bonne chose, mais par contre, d'avoir un choix équitable, je pense qu'on peut que s'en réjouir. Bon, je transitionne.
Non, mais je suis entièrement d'accord.
D'accord. Free.corben.info, notre ami Corben qui était présent avec Loïc le mois dernier dans cette émission, a ouvert un projet extrêmement intéressant qui est une sorte de wiki en fait. Donc c'est site web collaboratif que chacun peut venir agrémenter et écrire. C'est un wiki qui est basé sur l'idée d'établir une base de connaissances commune pour permettre à tout le monde de profiter d'Internet avec autant de liberté que possible. En gros, ça va être une base d'informations pour des tutoriaux, des idées, des suggestions, des explications pour ne pas se faire piéger par... alors, il y a une composante anti-Adopi, anti-Lopsi et ce genre de choses. On en a suffisamment parlé, donc vous savez ce que nous en pensons. Mais il y a aussi une composante liberté en général sur Internet. Et c'est vrai qu'à ma connaissance, on n'avait pas un site centralisé comme celui-là. Et c'est une excellente initiative que moi, je tenais à saluer. Donc, free.corben.info, c'est l'adresse à retenir pour toutes ces informations. C'est encore en cours d'établissement, hein, donc, parce que il vient de commencer de lancer le projet il y a une semaine. Mais par contre, il a eu beaucoup de succès, il a dû changer de serveur, etc. etc. Et maintenant, c'est bien en route, c'est bien en place, donc c'est un truc à surveiller. Free.corben.info. J'ai deux dernières histoires avant nos histoires à la con. La vente de Pirate Bay qui tombe à l'eau, qui m'a fait marrer, moi, cette histoire. On vous parlait de la vente du site Pirate Bay. Visiblement, ça serait pas, ça se ferait pas.
En fait, il y a eu un dernier rebondissement à ce sujet-là. En fait, finalement, ça va se faire pour 30 millions de couronnes. Ils ont passé la news aujourd'hui, hier, je crois. Parce qu'en fait, les gars de Pirate Bay ont mis un petit peu la pression en disant si jamais on n'a pas une réponse de votre part avant, je sais plus, c'était dans deux jours, un truc comme ça, on annule le deal et tout. Donc, c'était un coup de quitte ou double. Et puis finalement, ça a payé puisque je crois que trois jours après, les gars, ils ont dit OK, d'accord, on allonge la thune. Et donc ils vont vendre Pirate Bay. Donc c'est un ouf de soulagement pour les propriétaires du site. Et je crois que la transaction est prévue pour le 27 août. Donc voilà quoi. Ouais. Ils sont déjà en train de préparer.
Ils feront leur ouf que le 27 août à.
Ouais. On a encore de la marge. Ouais. On a encore de la marge.
C'est pas parce que tu vends une boîte que la vente peut pas être cassée. Hein, donc c'est pas fini.
Ouais.
Ouais. Ça va encore nous faire des semaines et des mois de romans, c'est pas encore complètement terminé.
Mais moi, ce qui me fait halluciner avec ces histoires de Pirate Bay, c'est qu'ils ont été jugés, reconnus coupables, condamnés, etc. Et tout à l'heure, je me suis connecté à Pirate Bay, j'ai tapé Office, et puis je pouvais télécharger tout de suite, quoi. Je me dis, mais c'est bizarre que le truc, il tourne encore, que le site, il est encore disponible, et j'ai l'impression qu'il y a tellement de process derrière tout ça pour pouvoir arrêter le site. Pour moi, dès qu'il y a eu le jugement, le site, il aurait dû s'arrêter d'emblée, quoi. Comment ça se fait que le site soit encore disponible, qu'on puisse encore télécharger télécharger des applications comme ça, c'est un truc qui m'échappe, quoi.
Ouais, bon. C'est surprenant. Moi, je saurais pas te dire pourquoi il n'y a pas eu une mise en demeure immédiate du. Peut-être parce qu'ils sont en train de dire oui, mais nous, avec un accent suédois, je sais pas le faire.
C'est Mathieu qui dit que c'est la magie d'Internet que Mathieu nous dit sur, sur le chat. C'est la magie d'Internet. Bah ouais, c'est probablement ça.
Bah ouais, et puis on sait pas qui contrôle les serveurs. Nous, on n'est pas en charge de ci ou de ça. Ils ont, tu sais, ils ont dû lever les bras au ciel, genre, alors, vous appuyez sur le bouton pour arrêter. Je sais pas où c'est. C'est pas nous qui contrôlons. Aucune idée.
Ouais, c'est peut-être ça.
Jeff, tu sais pas non plus comment ça marche en Suède pour arrêter les sites internet quand on est jugé coupable.
Non, j'avoue que.
D'accord, t'as pas eu de problème.
Ne tombe pas sur la partie nordique. Je sais qu'il boit beaucoup d'aquavit là-bas, mais à part ça.
Une chose dont tu pourras peut-être nous parler un petit peu plus, c'est le redesign de la page d'accueil de Twitter, qui est devenue non plus une page où on a inscrivez-vous sur Twitter parce que vous pourrez raconter au monde ce que vous faites, mais plutôt une page de recherche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous allez sur twitter.com, vous allez avoir un champ de recherche qui va vous proposer de, en gros, savoir ce qui se passe dans le monde, enfin, entendre ce qu'on dit dans le monde sur tel ou tel sujet. C'est une transformation, enfin, c'est si vous y allez et que vous n'avez pas, vous n'êtes pas directement inscrit sur Twitter, mais c'est un changement d'orientation qui est très intéressant parce que Twitter passe d'un truc très égocentrique où les gens doivent annoncer ce qu'ils font plutôt à un modèle où on va écouter ce que dit le monde. Donc, même si on est passif, on peut trouver un intérêt à Twitter et poser son oreille sur ce qui se passe dans le monde de cette manière. C'est, moi, j'ai dit il y a plusieurs mois déjà que l'avenir de... Enfin, c'est pas un truc de génie, hein, tout le monde le pensait aussi, mais l'avenir de Twitter est très certainement dans la recherche. Et moi, je disais que ça va être un gros concurrent de Google. Et à mon sens, Google aurait dû acheter Twitter depuis longtemps parce que c'est un ajout énorme à leur business de recherche. Et ça, c'est une indication qu'ils sont en train de se diriger dans ce sens-là. Je me fais des films ou j'enfonce des portes ouvertes ?
Non, un peu. Non, je pense que la porte a déjà été ouverte parce qu'on avait déjà discuté. C'est un des points.
Mais moi, je l'avais dit avant. Il y a des mois et des mois. Pardon, vas-y.
Tu avais raison, Patrick. Tu avais raison.
Merci. Et
d'ailleurs, à quoi ça te fait penser ? Je veux dire, si t'avais un autre bouton qui s'appelait I Feel Lucky, tu te dirais, mais attends, c'est Google. Non, je pense qu'aujourd'hui, Twitter est tellement gros en termes de aussi bien d'audience qu'en termes de nombre de contributions, que la couverture des contributions, que tu utilises vraiment Twitter dans un mode, je dirais, plus prospectif, c'est-à-dire que tu vas avoir le mode recherche, c'est-à-dire je vais rechercher l'historique du web, l'index, pour trouver des informations, mais si je veux savoir ce qui se passe à l'heure actuelle, bah clairement je vois sur Twitter et surtout si tu vas utiliser les tags du genre qu'est-ce que c'est aujourd'hui, c'est Aaron Election, c'est Michael Jackson, c'est AT&T, tu vois que ce sont des mots clés qui sont en train de d'être importants sur Twitter. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en train de se développer. Et je suis un des investisseurs de Bitly, qui est aujourd'hui le plus gros troncateur d'URL, comment on va dire ça,
des raccourcisseurs d'URL, ouais.
Raccourcisseurs d'URL, merci. Et donc, on va bientôt passer à 1 milliard de clics, ce qui va être énorme. Enfin, pour
oui, j'entendais justement Léo Laporte qui disait que Bitly fait autant de clics que Google News, c'est ça?
Ouais, ça va être dans ces eaux-là, ouais.
Mais c'est invraisemblable.
C'est quelques mois après le lancement. Et 50% du trafic, c'est Twitter. Donc, on n'est pas uniquement Twitter, malgré ce que pas mal de gens pensent. Et donc, aujourd'hui, ce que l'on voit, nous, au sein de nos serveurs, c'est les trends qui se développent encore plus vite que sur Twitter, puisque Twitter, ça va être les gens qui vont commenter, qui vont parler, qui vont s'engager, qui vont retweeter. Mais quand on a la possibilité de suivre ce que les gens font avec leur clic, c'est-à-dire ils voient une news, ils cliquent dessus, et donc les actions qu'ils vont prendre sur le stream Twitter, c'est extrêmement intéressant. Donc je pense que clairement, oui, le futur de Twitter, c'est plutôt du côté discovery, donc la recherche prospective. Et c'est pas étonnant qu'ils aient fait ce changement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui entendent parler de Twitter, mais ils n'ont pas envie de bloguer, ils n'ont pas envie de communiquer, mais ils veulent savoir ce qui se passe.
Oui.
Et donc, c'est un développement qui a tout à fait du sens. Et pour répondre à ta question, enfin, ce que tu disais à propos de Google qui a racheté Twitter, t'inquiète pas, ils ont déjà essayé. Ils ont essayé plusieurs fois, parce que, rappelle-toi, ils viennent, la plupart des gens de Twitter viennent de Google, que ce soit Eve, que ce soit Biz, que ce soit Gorman, que ce soit la plupart des gens qui étaient à la base de Twitter. C'était des gens, en fait, qui travaillaient avec Eve et Biz chez Google, qui sont partis, qui ont fondé Audio. Ensuite, ils sont réinventés, ils sont devenus Twitter. Donc, il y a plein d'ex-Google chez Twitter. Ils ont eu, de toute façon, cette discussion. Et c'est pour la même raison, je pense que Microsoft essaiera aussi d'avoir acheté, Twitter, parce que c'est une façon d'être à la ligne à Google, au niveau recherche. Et je pense qu'aujourd'hui, si MySpace veut faire quelque chose contre Facebook, c'est aussi en rachetant Twitter.
Ah oui.
La grosse question,
mon Dieu.
C'est
est-ce que... Espérons que MySpace ne rachète pas Twitter. Ça serait la fin des haricots, là.
Ouais, mais tu sais, c'est mon copain John Miller qui est à la tête de MySpace, et je peux dire que Gufin, qui est
au-dessus
de News Corp. Mais John, il sait très bien ce qu'il veut faire, je lui ai pas parlé depuis qu'il a repris MySpace, mais ayant pas mal travaillé avec lui chez AOL, puisqu'il m'avait racheté deux boîtes, je sais que quand il est dans la tête, il va essayer d'aller jusqu'au bout. Ouais. Alors, je sais pas si aujourd'hui c'est sa cible numéro un, mais je pense qu'aujourd'hui Twitter est une boîte stratégique pour trois ou quatre gros acteurs de l'Internet. La grosse question, c'est qu'est-ce que eux, les fondateurs, veulent faire. Et ouais. Clairement, ils ont levé suffisamment d'argent pour ne pas se
soucier en fait,
de la partie de l'utilisation pour des années, puisque je pense qu'ils ont facilement 3 ou 4 ans de cash devant eux. Et de toute façon, le jour où ils disent « Ah bah tiens, on va lever encore un peu d'argent », je t'assure qu'ils peuvent lever des centaines de millions de dollars sans poser de questions. Voilà, on voudrait lever de l'argent, pouf. Et le lendemain, ils auront un virement avec de l'argent en frais, quoi. Donc aujourd'hui, ils ont la possibilité de voir un peu sur le long terme. Et d'ailleurs, tu parlais de Corben, donc on peut peut-être mentionner le Twittergate, qui est la publication des documents internes de Twitter.
Dont on a parlé avec Loïc il y a deux semaines.
Par Mike Harrington, où tu vois clairement, ils sont en train de prendre au travers de ces documents et de ce que Mike a décidé de publier. Tu vois qu'ils se posent des questions sur les questions de long terme, de positionnement, de qu'est-ce que c'est que Twitter. Et ce sont des mecs qui sont vraiment intelligents. C'est pas des cons. Hein. S'ils décident de repousser la monétisation un peu loin, c'est pas parce que c'est des bits qui sont capables de réfléchir. C'est parce que c'est des mecs qui se posent fondamentalement des questions sur OK, comment est-ce que Twitter va changer le monde.
Ouais. Bon, je vais faire une prédiction en fait qui sera un petit peu plus nouvelle, celle-ci. Le web 1.0 était le web qu'on connaissait, le web statique. Le web 2.0, c'est un peu le web social. Je pense que avec Twitter et d'autres choses, la tendance aujourd'hui, c'est que le web 3.0 sera le web instantané. Nous sommes d'accord ?
Ouais. Beaucoup de gens qui disent que c'est le sémantique web, ce qui est une connerie. Mais je pense que si tu veux,
le web temps réel, tu vois.
Je sais pas si c'est le web temps réel ou le web plus immédiat. Enfin
temps réel, façon de parler. Tu vois, mais
bon. Je pense que si tu veux le web. Je suis d'accord avec toi à condition que tu étendes le temps réel à plus que juste un stream d'information à la Twitter. Et
donc, bien sûr. Moi, je parle de ça. Je parle également de Wave qui devrait plus trop tarder. Je parle du push button web dont on n'a pas trop le temps de parler maintenant. Enfin, bon, c'est un sujet qu'on aura le temps de développer plus tard dans cette émission, dans les semaines et les mois qui viendront. Mais au moins là, j'aurais dit la chose à l'avance. Le 3.0 sera le web temps réel.
Voilà. Et d'ailleurs, il faut que tu le tweetes, parce que si tu le tweetes, ce sera dans l'histoire.
Ça sera officiel, voilà. Exactement.
Je viens d'avoir la notice comme quoi la batterie était noire sur mon téléphone.
Merde, ok, avançons. Les histoires à la con, les rumeurs, on s'en fout, les trucs comme ça. J'ai même pas les jingles de Cédric dans l'ordinateur, donc on va pas les faire. Ça va nous faire gagner du temps, mais machin, rumeurs à la con, on s'en fout, bonjour, voilà. David Pogue a lancé... J'ai même pas fait de la musique. David Pogue a lancé une campagne qui s'appelle « Take Back the Beep, et il a, c'est un journaliste, le journaliste technologique au New York Times, il a lancé une campagne pour dire tous ces messages à la con qu'on a quand on appelle quelqu'un et que on tombe sur son répondeur sur un téléphone portable et où on nous dit pendant 30 secondes si vous voulez laisser un message, appuyez sur 4. Vous pourrez ensuite le réécouter en appuyant sur étoile. Quand vous êtes prêt, appuyez sur 72. Il a dit ça, j'en ai marre, ça suffit, ça coûte, ça nous fait bouffer des minutes, ça ne sert à rien. Il est temps de d'arrêter tous ces messages. Et bon, c'est sans doute la cause la plus débile de l'histoire, mais il a levé une telle quantité de gens par Twitter et par son site et par tout ça que ça a fait énormément de bruit auprès des différents opérateurs comme AT&T, Verizon, Sprint, etc. Et il n'est pas impossible que ça provoque un changement chez eux dans les semaines à venir, donc enfin dans les semaines ou les mois à venir. Mais c'est vrai que aujourd'hui tout le monde sait comment fonctionne un téléphone portable. C'est pas la peine de faire un quart d'heure d'explication à chaque fois que tu veux laisser un message. Autre chose, Microsoft et Ubisoft à Hollywood. Peut-être que ces sociétés vont se lancer dans la réalisation de films courts pour illustrer leurs jeux. Pourquoi pas, hein, l'industrie du jeu vidéo est aujourd'hui énorme. On a pensé à des films courts pour Halo, dont on parlait tout à l'heure, ou Assassin's Creed, par exemple. Et ça serait peut-être un début, mais peut-être qu'à terme, ils lanceraient des films, de véritables films de cinéma. On aura plus d'infos dans les mois qui viennent, là encore. Spotify en vidéo, le service dont nous avons parlé souvent, de streaming de musique. De musique. Jeff, c'est ton influence, là. De streaming de musique, franchement.
c'est très clair.
Ouais, streaming de musique. Alors, il y a des indices qui peuvent laisser...
D'accord, le rendez-vous tech en anglais,
d'ailleurs. The rendezvous tech. qui laisse des indices, donc, qui laisse penser que Spotify va peut-être se mettre à la vidéo. Ça serait hyper intéressant.
Ça serait cool.
Et d'ailleurs, je ne sais plus si on en a parlé la dernière fois, mais il y a une application Spotify sur iPhone qui est en cours d'approbation. Espérons que Apple se bouge les fesses. Dernière chose sur laquelle on ne va pas passer deux heures, la Associated Press, qui est une agence de presse américaine, est en train d'essayer de protéger ses dépêches sur Internet en y accolant des DRM, c'est-à-dire ces systèmes qui vous permettent d'empêcher la copie de vos dépêches écrites. Ce qui est une ineptie. Enfin, ça a tellement bien marché pour l'industrie du disque et du cinéma qu'ils se sont dit on va faire pareil. Enfin, ça n'a. En même temps, on comprend. Ouais.
Non, c'est. Je fais juste le bruit de la boîte qui se casse la gueule.
D'accord. Bah, en même temps, on comprend leur problème, quoi. Dans un monde où tout est infiniment copiable, eux qui faisaient leur business sur la vente de copies, forcément, ils sont emmerdés. Mais c'est le même problème que pour tous les autres. Et tous les autres se sont plantés avec les DRM. C'est pas forcément une bonne idée d'aller dans cette direction eux aussi. Voilà, bon, il y avait aussi Google qui vend sa part d'AOL. Ils l'ont acheté 1 milliard il y a quelques années, 1 milliard de dollars. Ils la revendent à 283 millions de dollars. Ça a fait beaucoup de bruit aux États-Unis, mais chez nous, AOL n'est pas aussi important. Entre parenthèses, Time Warner se débarrasse aussi d'AOL a priori. Enfin, AOL, plus personne n'en veut, quoi. C'est un petit peu le Minitel des États-Unis. Ils ont eu une époque fantastique et aujourd'hui, on ne sait plus trop à quoi ça sert. C'est un petit peu triste pour AOL, mais Google a pas fait une super opération là-dessus. C'est dire à quel point ils veulent s'en débarrasser. Hein. 1 milliard contre 283 millions.
Ouais, enfin, faut savoir que là, faut se rappeler que derrière cette participation de Google dans AOL à l'époque, il y avait aussi un deal au niveau search qui avait été signé, et que je pense que Google, oui, enfin, ils avaient pris une perte. Dans leur bilan, il y a, je crois, 2 ans, puisqu'en fait, la participation de Google dans AOL n'était valorisée qu'à 300 millions depuis 2 ans, un truc comme ça. Donc, c'est juste dire, bon, ok, on bazarde le DD, c'est plus intéressant pour nous, mais à mon avis, ils ont dû faire tellement de fric sur le deal AOL que je ne cure pas pour Google.
Ouais, donc ils ont peut-être perdu sur la valorisation de AOL en lui-même, mais par contre, leur deal leur a rapporté suffisamment pour compenser, donc...
À mon avis.
Ouais. Bon, de toute façon.
Faut pas oublier une chose, c'est qu'aujourd'hui, et de façon croissante, c'est Google qui fait énormément d'argent sur tout le marché du search marketing, puisque ils ont depuis 3 ans quasiment systématiquement, enfin quasiment tous les trimestres, augmenter la part du revenu qui leur revient à eux quand ils vont vendre une pub pour quelqu'un, quoi. Donc ils sont pas à plaindre.
De toute façon, je crois qu'effectivement, de toutes les sociétés de l'univers de la technologie, Google n'est pas forcément la première sur laquelle on ira pleurer quand il leur arrive un truc de ce genre-là. Bah voilà, écoutez, c'est la fin de nos news. Et comme on n'a pas d'explication d'Arnaud ce coup-ci, je vais quand même vérifier mes mails sur Google Mail. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez Google, c'est une petite société qui a l'air de bien marcher en ce moment. Sur Gmail, non, visiblement, je n'ai pas d'explication d'Arnaud. Donc, bah, ça tombe bien, comme on n'a pas trop le temps, vu que la batterie de Jeff est en train de mourir, on va sauter également le conseil logiciel et le site fantastique pour passer directement au message, pour dire que William nous envoie un email pour nous dire « Salut Patrick et l'équipe de LRDV par la même occasion ». Il nous parle en fait de Twitter, dont on parlait il y a deux semaines, quand on disait que les jeunes ne sont pas super clients de Twitter, qu'ils sont plutôt sur Facebook, parce qu'ils préfèrent communiquer avec leur tribu, plutôt qu'avec le monde. Vous avez remarqué que j'ai utilisé un mot de Jones, hein, tribu, je suis très au fait de ce genre de choses. Pardon, Jeff ?
Non, pardon, je me suis lâché, pardon. J'ai dit hacker.
D'accord.
Hacker, oula, ah ouais,
oui, non,
te lâche pas trop souvent. Hein.
Ça, c'est les jeunes d'il y a quelques temps, on va dire. Ouais. Donc, William nous dit « J'aimerais faire un petit retour concernant le quart d'heure Twitter et la communauté vieux. En effet, j'ai 15 ans tout juste et personnellement, je ne me passe plus de Twitter. » Je vais la refaire. « J'ai 15 ans tout juste et personnellement, je ne me passe plus de Twitter. Je pense que la communauté Jones, comme dirait Patrick, merci, c'est sympa de m'envoyer une lettre dans la gueule, là. La communauté Jones, comme dirait Patrick, est sur Facebook car c'est en français. Et oui, après avoir interrogé plusieurs personnes qu'on pourrait qualifier de néophytes et dont l'activité se résume à MSN, Skyblog et Facebook, ils m'ont répondu « c'est pas en français, donc c'est nul », avec les fautes d'orthographe que je ne vous raconte même pas, ça vous donnerait des attaques cardiaques. Je pense donc que si Twitter passerait... excusez-moi, ce sont ses amis qui lui ont répondu avec des fautes d'orthographe, pas lui qui a fait les fautes d'orthographe. William écrit très très bien. Donc, il disait « Je pense que si Twitter passait avec l'option française, la communauté des jeunes viendrait, hélas, polluer Twitter. Sur ce, bonne continuation, voilà, voilà. Merci William. » Donc effectivement, c'est une chose à laquelle on n'avait pas pensé. C'est vrai que Twitter n'est disponible qu'en anglais. Alors, ce n'est pas un système très lourd, donc je ne pense pas que ça serait un énorme obstacle, mais visiblement... ah, Jeff, c'est terminé. Est-ce que j'ai épuisé tout mon... Non, il m'en reste un peu, donc je vais le rappeler.
Il n'a peut-être plus de batterie, en fait.
Ah, c'est peut-être ça, damned. Bon, au moins, il a fait toute la partie news. Voilà. Je vais lui demander de dire ses commentaires sur Skype en chat et je vous les lirai. donc effectivement, c'est un truc auquel on n'avait pas pensé, mais le fait que ça ne soit pas en français, ça joue peut-être, hein.
Bah ouais, mais en même temps, le contenu de Twitter, c'est surtout ce que les gens écrivent. Donc, que l'interface de Twitter soit pas en français, bon, je veux bien, mais comme tu le disais tout à l'heure, l'interface de Twitter, elle est vraiment, il y a quasiment rien, quoi. C'est pas un Facebook. Donc, c'est plus la communauté qui doit commencer à tweeter en français. Mais c'est vrai que quand toi, tu débarques là-dessus et que tu vois que tout le monde, même tes amis que tu connais, que tu sais qu'ils sont français et qui tweet en anglais, et que toi, tu sais que t'as un mauvais niveau en anglais, ça te donne pas forcément envie d'y aller, quoi. Je pense qu'effectivement, c'est vraiment un point de vue intéressant. J'avais pas du tout pensé non plus. Et je pense que c'est... On a de plus en plus de Twitter, enfin de gens qui tweetent en français, des gens qui ont pignon sur eux. Je crois que Corben, par exemple, il tweet en français.
Ouais, tout à fait.
Bah, donc voilà.
Moi, c'est vrai que je tweete beaucoup en anglais, principalement parce que j'ai beaucoup de gens qui me suivent qui sont d'origine internationale. C'est même pas que des Américains ou des Anglais, mais beaucoup de blogueurs français tweetent en français. D'ailleurs, toi-même, tu tweetes souvent en français.
Ouais, je pense que Twitter devrait inclure un truc dans leur interface pour pouvoir faire une redirection ou je sais pas, ou quand tu t'abonnes à, quand tu demandes de follower quelqu'un, ben dire que tu veux suivre que ces textes qui sont en français quoi. Et quand tu es sur le point de tweeter un truc, tu dis je veux tweeter ça sur le canal français de mon Twitter et pas sur mon canal US quoi. Enfin, je sais pas, je pense qu'il y a un truc à faire parce que les Américains qui te suivent, ils s'en foutent de tes tweets en français et inversement.
C'est vrai, effectivement. Moi, ma réponse, qui suis plutôt polyglotte, ma réponse, ça serait mettez-vous tous à l'anglais parce que c'est comme ça, ça devient une sorte de village international où tout le monde est heureux et on se prend la main et on danse dans un cercle, quoi, avec des fleurs partout, tu vois. Mais c'est vrai que concrètement, c'est pas faux du tout, hein, les Français aiment les trucs en français et les Espagnols en espagnol, etc., etc. On arrivera à terme à une interface en français pour Twitter, et cet aspect, j'y avais pas du tout pensé, et c'est quelque chose d'intéressant. De là à dire qu'il faudrait séparer les tweets français et anglais, j'y avais pensé déjà, effectivement. Je me dis que c'est peut-être une idée intéressante, mais le problème, c'est que ça complique un tout petit poil Twitter, et quand tu commences à compliquer un tout petit poil, il y a plein de trucs qu'il faudrait faire également qui vont compliquer encore plus, et là tu perds la force de Twitter. Donc
c'est vrai, c'est vrai.
Il y aurait peut-être un truc à faire quoi. Oh, on était en synchronisation, c'était très beau. En tous les
cas, tellement beau.
Il y a sans doute un petit peu des deux. Il y a sans doute un petit peu des deux. À la fois le fait que ça soit Twitter et pas Facebook, et à la fois le fait que ça soit pas en français. Merci à William en tout cas pour cette analyse intéressante et pertinente. iTunes, donc, pour conclure l'émission, on lit un ou deux petits commentaires sur iTunes. On est à 152 avis et 254 notations. Merci à tous ceux qui nous en ont laissé dans ces deux dernières semaines. Ça continue à monter. Ginyusa nous a dit « Vraiment très bien comme podcast, avec plein de bons plans et de bons débats, et surtout l'humour de Patrick et de ses invités qui le rend agréable à écouter. » Merci Ginyusa. C'est vrai que on n'est quand même pas là pour s'emmerder. Hein,
voilà, on parle de pas tech. Tout le temps. Non, mais ça fait vachement plaisir. Ouais. C'est sympa.
Et Rod 889 qui dit « J'ai découvert ce podcast il y a une semaine en me baladant sur iTunes. Depuis, je DL progressivement tous les épisodes précédents. Je suis en passe de devenir addict. À cause de vous, je me suis enfin mis à Twitter. Je connais les 90 applications que Google sort chaque semaine. Je vais essayer des bêtas d'obscurs OS sur mon netbook. J'ai envie de m'acheter une tablette tactile qui ne me servira à rien. Et je me sens presque dans l'obligation de devoir choisir un camp dans la guerre des OS entre Mac et Microsoft et les distributions Linux. » Non, je déconne pour Linux. J'espère égoïstement que vous ne prendrez pas de vacances. Merci pour cette excellente émission. Des vacances ? C'est quoi les vacances ? Je ne sais pas très bien.
C'est pas pour le rendez-vous tech, ça, les vacances. Les vacances, c'est pour les faibles.
Oui, je ne sais pas très bien de quoi il parle. Je ne vois pas trop là. Non. Pas de vacances pour nous. On est là et on continue à travailler. Et voilà, écoutez, Yann, merci beaucoup d'avoir été là une fois de plus. Est-ce que tu veux parler de quelque chose ?
Non, rien de sensationnel. Juste un petit truc. On n'a pas fait de site fantastique, mais je vais juste donner un tout petit lien. C'est un truc que j'ai vu passer rapidement sur Game One, et je me dis que ça peut intéresser les auditeurs. Ça s'appelle iCloud. C'est un site où globalement vous avez un système d'exploitation dans le cloud, dans le nuage, sur Internet. Donc vous inscrivez sur le site, c'est entièrement gratuit, et vous avez un système d'exploitation.
Oula. j'essayais d'appeler Jeff et bon, bah on coupera ça.
Ça n'a pas marché apparemment. Mais voilà quoi, vous allez sur iCloud et vous allez pouvoir goûter à ce que pourrait être finalement le fait de vivre intégralement sur le net, d'avoir son système d'exploitation qui est hébergé sur le cloud et avoir un petit avant-goût de ce que pourrait finalement être le Google OS qui va débarquer d'ici un an ou deux.
Donc bah, voilà, j'irai quoi. Jeter un iCloud. Coup d'œil là-dessus, j'ai pas vu ça, j'irai voir ça, iCloud donc. Bah moi je parlais surtout du fait de parler de toi Yann, tu es très altruiste donc tu as voulu donner quelque chose aux auditeurs, mais tu as peut-être un compte sur Twitter ou un truc
du genre ? Oui, alors pour ceux qui s'intéressent un petit peu à ce que je fais et qui voudraient m'entendre encore dire des méchancetés sur Apple et tous les trucs du cloud computing justement, vous pouvez me suivre sur twitter.com/YannAlet, YannAlet. Et puis voilà quoi, je serais ravi de discuter avec ces nouveaux followers, c'est ceux avec qui je discute déjà. Voilà.
D'ailleurs, si vous suivez Yann sur Twitter, suivez aussi Mathieu Blanco parce qu'ils s'envoient des pics de temps en temps et ils se font des petites discussions assez marrantes. Moi, je vois ça de l'extérieur, ça me fait beaucoup.
Mais il me cherche, Mathieu. Il choisit exactement les trucs, il dit ça, je sens que ça va plaire à Yann. Et à tous les coups, moi, je pars bille en tête et voilà quoi. Il sait me chercher et moi je sais le trouver aussi, donc on s'amuse bien. Mais voilà. J'aime bien Mathieu, il sait très bien.
L'autre personne qui était là avec nous, évidemment, c'est Jeff. Il était, lui, en vacances, mais il a réussi à braver toutes les mers, les orages technologiques pour nous rejoindre sur le Rendez-vous Tech. Et vous pouvez le suivre sur Twitter, sur twitter.com/Jeff, J-E-E.
Fatigué, et pourtant, c'est pas compliqué.
Non, mais c'est vraiment le nom sur Twitter le plus simple de l'histoire et j'y arrive pas. J-E-2-F. Voilà, Jeff.
Voilà.
Et moi, c'est twitter.com/notepatrick. Le site pour faire des commentaires et voir les notes de l'émission, c'est lrdv.fr. L'adresse email, c'est tech@frenchspin.com. La prochaine émission en live aura lieu donc le lundi 17 août à 22h, comme d'habitude. Vous pouvez avoir le calendrier et les détails pour nous rejoindre dans cette merveilleuse chatroom sur le site. Et bah voilà, c'est tout. On vous remercie encore une fois de nous avoir écoutés. On fait un grand salut à la chatroom et on vous donne rendez-vous le 17 août. Ciao à tous.
Salut, ciao. J'aimerais juste que tu fasses un tout petit truc, que tu me rendes un tout petit service, Patrick, c'est que tu lances un sondage sur la chatroom. J'aimerais poser une question à tout le monde, là. Parmi tous les gens qui sont sur le channel, qui a monté son PC, enfin, a créé un PC de toutes pièces par un ami ou autre, et qui a acheté son PC en magasin et qui peut être comptabilisé dans les 91% qu'on a donné là? Parce que moi, ça m'intrigue. Je suis sûr qu'il y a beaucoup plus de gens que ça qui le créent, enfin, qui le montent eux-mêmes, quoi, par un ami ou autre. Hein.
Attends, et même chez nous, ils sont 62% à monter leur PC eux-mêmes contre 38% à ne pas le monter eux-mêmes. Même ici, dans cette chatroom.
Ah bah oui, mais c'est justement ça, mais c'est tout à fait représentatif. Je vois pas pourquoi les gens qui seraient dans cette chatroom ne sont pas représentatifs de des gens qui ont un ordinateur, Patrick.
Tu vas me dire que les gens qui sont dans la chatroom là représentent un échantillon représentatif de la population des utilisateurs d'ordinateurs, c'est ça?
Bah écoute, je pense que c'est un bon indicateur.
Mais quel mauvais espoir! Tu veux dire qu'il y a dans cette chatroom suffisamment de gens qui sont au niveau de nos grands-parents, de nos grands-parents, de nos oncles, tu sais, qui nous appellent pour nous dire.
Les grands-parents, ils n'ont pas d'ordinateur et la maman, elle demande à son fils de lui monter, de lui trouver un PC. Il lui dit, à Carrefour, ça va te coûter 1 200 € et moi, si je vais à Montgalet, je te le fais à 700. En plus, 100 € dans la poche avec le truc. Donc voilà.
Tu atteins des niveaux Mathieu Blanquesque, mon cher Yann.